marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les archives sont la mémoire, elles sont aussi le grenier de l'histoire.
Madame S, les schizophrènes au XXe siècle.
Qu'est-ce que vous faites avec la psychose, avec la schizophrénie? Qu'est-ce que vous faites avec la psychiatrie? La question qui se pose, c'est pas seulement pour faire du bien dans le domaine social, c'est qu'est-ce que vous faites avec vous-même? Qu'est-ce que vous faites avec votre propre folie? Qu'est-ce que vous faites avec votre désir? Qu'est-ce que vous faites avec votre singularité? Avec votre naissance? Avec votre mort? Est-ce que ça existe? Que c'est un objet qui a de l'importance? Oh non, ça ne nous regarde pas. C'est pas notre projet. Ah bon, ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est quand même quelque chose qui est au cœur de l'existence.
On a entendu Félix Guattari. On se souvient peut-être que l'écrivain François Nourricier avait fait de Parkinson sa compagne. Il l'appelait Miss P. Et si on nommait la schizophrénie Madame S? Si l'envie nous en prenait, on pourrait presque lui souhaiter son anniversaire. C'est à peine si elle dépasse les 100 ans. L'avantage avec les maladies mentales, c'est qu'elles apparaissent non seulement dans les dictionnaires de la langue, mais aussi dans les classifications établies par les professionnels de la profession psychiatrique. On peut donc les dater dans l'échelle du temps. On serait tenté de dire dans l'échelle des modes. À l'époque reculée du XVIe, XVIIe siècle, un vent fort avait poussé la possession démoniaque. Au XIXe soufflait le zéphyr de la mélancolie. Avant, la brève tempête de l'hystérie. Puis, Madame S. vint. Elle fit craquer les codes antécédents, exigea l'établissement d'un alphabet de signes qui n'appartint qu'à elle. Ils étaient à la fois biologiques et psychologiques. Toutes les batteries d'examen pouvaient donc être mises en branle à son usage. Qui plus est, elle présentait généralement un pronostic mauvais, ce qui était un avantage à bien des égards. Les professionnels de la profession psychiatrique disposaient d'un temps long pour inventer les possibilités de traitement les plus variées, parfois les plus bizarres. On sait que Madame S est l'objet de nombreuses critiques, dont elle se défend en disant que les malades prouvent qu'ils le sont vraiment dès lors qu'ils veulent la quitter. Les affronts qu'essuie Madame S, notamment depuis les années 1970, la laissent en réalité impavide. Elle demeure en France le premier motif d'internement à plein temps. De plus, elle fait dorénavant vertu d'économie. La diffusion des neuroleptiques a permis d'économiser sur le nombre des lits psychiatriques. Mais Madame S sait que les malades interrompent souvent leur traitement et lui reviennent. Inventerait-on d'autres combinaisons d'explications pour les maladies mentales que Madame S dirait « À quoi bon me faire disparaître ? Je suis le prototype des autres maladies mentales et de toute façon, les malades, ils resteront. »
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Hervé Guillemin, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Schizophrène au XXe siècle, c'est aux éditions Alma. Bon, j'emprunte un peu le ton perplexe que vous utilisez dans ce livre, que vous avez adopté progressivement en lisant quantité de dossiers personnels de malades. Alors, des milliers depuis le début de votre recherche dans les archives, peut-être 500 là pour ce sujet qui nous mène depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui.
Oui, et environ 150 dont je développe la biographie dans cet ouvrage. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a guidé dans ce travail. J'étais parti notamment, je mets en exergue au début du livre, la citation trouvée dans un dossier de patient de un patient qui s'appelle Serge, et qui explique au fond, pour expliquer sa situation, « Je suis partout et je suis nulle part ». Et quand j'avais lu cette citation il y a quelques années, ça faisait écho pour moi à des travaux scientifiques qui expliquaient que la schizophrénie était éternelle et universelle. Et en quelque sorte, je suis entré dans ce travail et dans l'écriture de ce livre avec pour ambition d'expliquer dans quel contexte historique naît une nouvelle maladie mentale et le faire en m'appuyant non sur les traités scientifiques, mais en m'appuyant sur la vie des patients.
Donc n'attendons pas aujourd'hui de définition scientifique de la schizophrénie, il y a un que sais-je pour ça, ni de définition psychanalytique même. La schizophrénie va être entendue comme ce qu'elle est aussi, un produit de la conjoncture. Le mot apparaît il y a un peu plus d'un siècle et va permettre la dislocation du cadre clinique des classifications antécédentes.
Oui, la schizophrénie, en quelque sorte, émerge à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle sur les décombres, on pourrait dire, à la fois de l'hystérie, hein, que certains neuropsychiatres déclarent comme morte juste avant la Première Guerre mondiale, ou sur les décombres de la mélancolie, en quelque sorte, la mélancolie délirante que certains médecins avait en quelque sorte arraché aux auteurs romantiques pour en faire une catégorie psychiatrique. Et donc dans les dossiers de patients, on voit de manière parfois tout à fait surprenante se déplacer dans cette géographie scientifique de la classification les individus d'une catégorie à l'autre, d'un siècle à l'autre.
Alors à ceux qui disent que la schizophrénie est d'origine allemande, bah vous confirmez que le mot vient de l'allemand, que Kraepelin, grand classificateur, grand rénovateur de la psychiatrie, l'a introduite. Mais les médecins psychiatres français connaissaient bien les médecins psychiatres allemands et pouvaient les admirer.
Bien sûr, hein, contrairement à ce que beaucoup d'auteurs disent, moi je ne crois pas du tout à la guerre intellectuelle dans les milieux psychiatriques entre français et allemands juste avant la Grande Guerre. Au contraire, on voit bien qu'il y a un certain nombre de médecins français qui se tournent vers la classification à l'allemande et qui proposent à leurs collègues de l'adopter, ce qui crée un certain nombre de controverses. Pas tant sur la question de la nationalité de cette origine, mais plutôt sur les arrière-plans scientifiques, politiques, très conservateurs qui existent derrière parfois cette classification.
Associée à la démence précoce, sans entrer encore dans les années 20 et 30 dans les classifications officielles organisées par le gouvernement à Paris, elle connaît un démarrage assez rapide et puis une accélération dans les années 1930, notamment chez les femmes et chez les femmes, notamment chez les femmes domestiques. Alors là, on prend un exemple au Mans, puisque vous êtes élu tout récemment, professeur à l'université du Mans. Il s'agit de mancelles fort connues, les sœurs Papin, qui sont embauchées chez un notable de la ville.
Vous ne devinerez pas ce que je viens de penser, les filles. Je vais vous placer ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Toutes les deux dans la même maison.
7h20, préparer le plateau de monsieur, café, lait froid, pain grillé. 7h30, porter le plateau avec le journal. Ce matin, je t'ai entendu leur parler. Retiens bien ça. Oui, madame, non, madame. Oui, monsieur, non, monsieur, tout court. Tu oublies le nom de famille. Et toujours leur parler à la troisième personne. Ah, c'est comme ça. Tante Isabelle disait que dans un bourgeois, il y a trois personnes. Celle qu'il est, celle qu'on croit qu'il est, celle qui s'imagine être. On va toujours s'adresser à la dernière.
Chut. Le film de Jean-Pierre Denis. Alors, le langage chez les domestiques est corseté. Le corps ne doit pas se mettre en avant non plus. Vous avez vu beaucoup de cas de schizophrène définis comme tels chez les femmes domestiques.
Bah le cas des sœurs Papin est tout à fait emblématique. J'ai pu en quelque sorte trouver des dizaines et des dizaines de petites sœurs Papin dans les dossiers.
Enfin, qui n'allaient pas jusqu'au meurtre.
Non, qui n'allaient pas jusqu'au meurtre, mais qui portent un peu le même discours. Le même discours à la fois, je dirais, de désir d'émancipation, hein, des jeunes filles qui partent de leur milieu social, de la campagne, qui vont vers la ville, la capitale, dont le désir d'émancipation, finalement, il est complètement contrecarré par la situation sociale, la situation professionnelle des domestiques, cette contrainte des corps dont vous parliez. Et au fond, une contrainte des corps qui les conduit à une forme de révolte. On trouve dans les dossiers de patients, par exemple, des jeunes femmes qui expliquent qu'elles ne veulent pas manger la poussière des autres, qu'elles ne veulent pas être la ménagère des hommes, et que, au fond, plutôt que d'être domestique, elles préféreraient, en quelque sorte, être dactylo.
La dictalo, elle-même, elle est menacée de surmenage quand elle devient une tapeuse frénétique, ouais, à la machine. D'ailleurs, au fond, Plus il y a de migration, plus il y a de maladies mentales. Moi, dans ma famille, en milieu rural, on disait « lis pas trop parce que tu vas te surmener, tu vas attraper une méningite ». La migration, notamment, alors vous avez pris ce cas assez fréquemment, quand elle vient de Pologne, dans les années 20. La migration des Polonaises était encouragée dans les années 20. Elle était, en revanche, condamnée dans les années 30. Et Agatha, elle, dont vous avez regardé le dossier de très près, elle n'a pas voulu rentrer en Pologne. En plus, elle s'est inscrite à la CGT quand elle a été au chômage en 36. Est-ce qu'elle n'a pas divorcé aussi ?
Elle est tout à fait emblématique du parcours de ces jeunes femmes qui, au fond, sont, on va dire, pas forcément très malades. On ne distingue pas dans son dossier des signes de souffrance psychologique très très graves, mais qui sont prise par l'institution psychiatrique à un moment de crise sociale, un moment aussi de crise de l'institution psychiatrique, et qui va, en quelque sorte, s'emparer de cette femme pour la déplacer. C'est une femme transplantée qu'on redéplace dans des institutions de relégation.
Donc, parce que vous racontez que les femmes de cet acabit vont être les premières chassées des maisons psychiatriques de Paris. Pour aller, il y a deux possibilités offertes par la bonne famille Perchaud, un ancien sénateur radical, Plouguer-Nével, en Bretagne, ou Saint-Rémy, colline de Haute-Saône, enfin un peu froide. Hein.
Oui, parce qu'on a, à la fin des années 30, une situation de surpeuplement des asiles parisiens. On ne sait plus quoi faire, en quelque sorte, des folles parisiennes notamment. Et on veut trouver dans l'urgence des situations peu onéreuses. Et donc on fait appel à ce bienfaiteur de l'humanité qui va fonder une institution tout à fait incroyable, qui est une institution capitaliste, qui permet en quelque sorte de faire de l'argent à partir du soin des fous. Et Agatha est une de ces nombreuses femmes migrantes qui sont transférées massivement par train vers ces institutions de relégation.
Les femmes, vous les repérez très nombreuses parmi les premières schizophrènes, mais schizophrénie jouxte démence précoce et démence précoce, jouxte, adolescence. Témoignage des familles, parce que vous vous intéressez beaucoup aux récits des familles, aux questionnaires adressés aux familles. Là, c'est un témoignage beaucoup plus contemporain. Le site Allo Docteur, Aïcha, la mère d'un garçon devenu schizophrène.
J'ai tout imaginé. J'ai imaginé qu'il avait peut-être pris des drogues, parce que tout ce dont je me rends compte, c'est qu'il a un comportement qui n'est plus dans la norme et qui a tendance à être dans l'agressivité, dans l'exaltation, et je reconnais plus mon fils dans ces moments-là. Avant l'hospitalisation, là, ça se précipite, puisqu'il devient très agité, très exalté, il ne mange plus, il ne dort plus, il est complètement, il devient squelettique, il a des propos incohérents, mais c'est par moments seulement. Et c'est très difficile pour moi, comme j'imagine pour tous les parents, d'admettre que son fils dépend de la psychiatrie, quoi.
C'est difficile pour les familles, dites-vous, d'être revendicatives. Hervé Guillemin, elles ne tiennent pas un discours radicalement différent de celui des médecins, sauf qu'il y a des points saillants que vous repérez. Parce qu'une famille, elle est d'abord attentive au coup de tonnerre, à l'effondrement brusque qui se produit devant elle.
C'est cela, à l'inverse des psychiatres qui ont plutôt tendance à inscrire les débuts de la maladie mentale dans une très longue histoire, c'est-à-dire dans la succession des générations ou dans qui cherchent des prémices dans l'enfance de l'individu, les familles, lorsqu'on a accès aux lettres qu'elles laissent dans les dossiers de patients, au contraire, montrent toujours qu'il existe un moment précis de la naissance de la folie, de la maladie mentale, que ce soit un traumatisme, la grande histoire, les guerres sont très présentes, ou que ce soit un moment anecdotique, une nuit. Et donc, sur le plan du récit, il y a effectivement des différences assez nettes entre famille, patients et psychiatres.
Un instant sur l'adolescence, Maurice Debesse publie dans les années 1930 un livre où il explique qu'il faut se méfier, quand on est dans une famille, de la crise d'originalité juvénile. Le garçon ou la fille qui a le goût de la métaphysique et la haine de la famille, il peut basculer.
Oui, parce que on a des travaux de psychologie, des travaux médicaux qui essayent de comprendre comment, au fond, un adolescent peut basculer dans la schizophrénie. Et qui, la schizophrénie, c'est ça, au fond, c'est essayer de mettre
une définition
sur la souffrance juvénile. À une époque, on commence à s'intéresser aux adolescents et aux jeunes adultes. Hein. C'est pas le cas du tout au XIXe siècle.
Alors, le premier cas de schizophrénie d'un personnage célèbre, très médiatisé, parce qu'il a fait l'objet d'une cure dont on espérait beaucoup en 1938, c'est le danseur Nijinsky, dont Recep Mitrovica lit ici un extrait de ses cahiers.
J'aime ma femme, elle m'aime, mais elle pense que le docteur Frankel est Dieu. Moi, je suis Dieu. Pas le docteur Frankel. J'aime le docteur Frankel. Je connais ses intentions. Je le comprends. Il veut étudier mon cerveau. Je veux étudier sa raison. J'ai déjà étudié sa raison. Il ne peut pas étudier mon cerveau car il ne l'a pas vu. Je lui ai écrit des poèmes. Ces poèmes, je les ai faits exprès pour qu'il puisse voir mon cerveau. J'ai écrit des paroles cohérentes. Le docteur Frankel a demandé des choses incohérentes. Car il voulait étudier mes nerfs. Je lui ai répondu vite et avec logique. Ma femme a répondu vite et sans logique. J'ai peur qu'on me mette dans une maison de fous et que je perde tout mon travail.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Les schizophrènes au XXe siècle, un nouveau livre d'Hervé Guillemin aux éditions Alma. On entendait Daniel Darc chanter Nijinsky, Nijinsky qui est mort bien après la Deuxième Guerre mondiale en 1950, une époque importante pour la seconde carrière de la schizophrénie. En 1943, elle entre à l'époque du gouvernement Laval à Vichy dans la nouvelle classification officielle française.
Oui, c'est la première fois qu'on va quelque sorte standardiser à l'échelle nationale le nom des maladies mentales après des décennies de pratiques, on va dire, décentralisées du diagnostic par les psychiatres.
Donc elle est devant la débilité mentale, la mélancolie, la manie, la démence sénile, parce que la démence, avec un grand D, elle a éclaté en différentes catégories d'âge progressivement.
Oui, la schizophrénie, ce qu'on appelle auparavant la démence précoce, c'est précisément essayer d'inscrire les souffrances d'un individu dans un continuum temporel et d'essayer de montrer que la maladie va se développer dans le temps. Et c'est d'ailleurs ce qui est un peu terrible, et ce que disent certains psychiatres d'ailleurs dès le début du XXe siècle, avec cette définition de la maladie mentale sous la forme de démence précoce, c'est qu'on inscrit le sujet dans une dimension tout à fait tragique, dans une incurabilité total.
Oui, mais soyez un petit peu optimiste si vous le voulez bien. Vous allez entendre une tribune de Paris, une grande émission animée par Paul Guimard sur la Radio Nationale en 1946. Ce n'est pas que les participants de cette émission, à commencer par le docteur de Mauzon, nient les aspects tragiques qu'ont connus les asiles pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des perspectives nouvelles maintenant qui s'ouvrent.
Toutes les fois que le psychiatre paraît, une question lui est posée. Certainement, docteur, étant donné les événements que nous vivons, étant donné ceux surtout que nous avons vécu, le nombre des malades a dû augmenter dans des proportions considérables. Et en fait, il n'en est rien, le nombre des malades mentaux hospitalisés a diminué dans des proportions considérables pendant toute la période d'hostilité.
Écoutez, voulez-vous permettre au docteur Parcheminet de prendre la parole un instant, je vous en prie?
Je voulais dire une chose d'ordre assez paradoxal en apparence. Eh bien, ce que nous voyons surtout, ce que sont des nerveux qui momentanément, ont été guéris au moment des gros traumatismes. Et en particulier durant l'exode, qui a consisté à une, comment dirais-je, un véritable drainage de toutes les activités instinctives de l'être vers les buts immédiats de la conservation de la vie, nous avons vu disparaître des quantités de symptômes, de phobies, d'obsessions, en somme de tout ce que nous traitons théoriquement et de façon générale dans nos méthodes psychanalytiques.
Vous pensez qu'il y a eu des chocs salutaires?
Oui, ceci en apparence.
Mais il y a un autre fait très important et très intéressant, c'est que pas mal de sujets qui, en temps ordinaire, semble-t-il, seraient devenus des malades mentaux et auraient été internés en temps ordinaire, n'ont pas été internés pendant la guerre.
Par conséquent, cela ne signifie pas que le problème soit moins grave que par le passé.
Oh non, certainement, parce que en dehors de cela, il y a des quantités de sujets qui ont en quelque sorte préparé, qui ont mûri leur psychose pendant la guerre, psychose qui éclora par la suite. Le nombre de ces admissions est remonté en flèche depuis la fin des hostilités.
Alors, je retiendrai, Hervé Guillemin, la définition par un psychanalyste, le docteur Parcheminet, de l'exode, le drainage de toutes les activités instinctives de l'être vers les buts immédiats de la conservation de la vie. Les chiffres, on les observe dans la Tribune de Paris, et puis, vous avez trouvé la première carte, qui date de 47-48, de la répartition des maladies mentales en France. Alors ça, c'est très très intéressant. L'Ouest, dont vous êtes, là, il y a le plus de persécutés. Le centre, le plus de paranoïaques. L'Île-de-France, c'est formidable parce que tout le monde est représenté, toutes les catégories sont là. Et alors, savez-vous que les schizophrènes, eh ben, ils sont au Sud, en 47-48.
Oui, ça c'était une sacrée découverte pour moi, notamment à travers cette carte, mais aussi à travers les archives. Quand on voit cette carte, on s'aperçoit qu'une grande tache noire recouvre le sud de la France et ça représente la schizophrénie. Alors quelques psychiatres qui ont travaillé autour de cette carte expliquent que c'est peut-être le Mistral ou la Tramontane qui rend fou finalement et propose d'ailleurs une forme de climatologie psychiatrique en pensant la disposition des pavillons de schizophrènes à l'abri du vent. En réalité, je crois que si on regarde ces archives, on s'aperçoit qu'il y a un effet d'histoire et il y a surtout un effet de la gestion administrative des flux de patients. Parce que les patients schizophrènes qu'on trouve notamment au sud de la France, ce sont en réalité des patients corses que l'on a transférés d'un département qui ne possède pas d'hôpital psychiatrique et que l'on transfère par bateau, comme on faisait auparavant avec les coloniaux dans les années 1920, et qui arrivent dans un état lamentable, qui ne parlent pas le français et qui sont donc considérés tous majoritairement comme déments précoces.
Oui, mais alors vous décrivez la Corse comme un territoire apsychiatrique et au fond, vous entendez déjà, là, quand vous dites ça, des arguments qui seront ceux de l'antipsychiatrie dans les années 1970, quand elle mettra en cause les maladies mentales et prônera l'ouverture pour que les malades rejoignent les terres apsychiatriques. C'est pas ça qui va réussir à mettre la schizophrénie en crise, vraiment, au milieu des années 70.
Non, la notion de schizophrénie, en fait, elle est contestée très rapidement, hein, dès le début du XXe siècle, mais on voit émerger de plus en plus de voix scientifiques, sociales, même les premières associations de patients qui contestent, au fond, la légitimité de recourir à ces notions comme celle de la schizophrénie. Que ce soit dans le courant de l'antipsychiatrie ou dans d'autres courants. Et cette contestation va s'amplifier et s'amplifie même depuis quelques années.
Mais est-ce qu'elle porte pas sur les modes de traitement, l'électrochoc dont beaucoup, la Libération, pensait qu'il pouvait être bénéfique, la camisole chimique, c'est ainsi qu'on dénonce les médicaments?
Alors l'électrochoc a été très très populaire, hein. Il a été vraiment, on trouve dans les archives des traces d'une demande au moins familiale d'électrochoc, notamment pour soigner les grandes mélancolies. Il est vrai que le recours aux neuroleptiques, à la chimiothérapie à partir des années 50, là va changer un petit peu la donne, notamment pour les patients schizophrènes qui sont appelés de plus en plus souvent à vivre en dehors de l'hôpital et qui redeviennent en quelque sorte maîtres de leur traitement lorsqu'il s'agit de prendre ou pas des comprimés.
Oui, mais Madame S est rusée. Les malades reviennent parce qu'ils interrompent leur traitement.
Les malades reviennent parce qu'ils interrompent leur traitement, c'est vrai. Et on va donc inventer de nouveaux dispositifs, notamment à partir des années 60, qui sont notamment les neuroleptiques retard. une injection par mois qui fonctionne un petit peu comme l'insuline ou la pilule et qui permettent en quelque sorte de favoriser l'extériorisation des patients tout en les maintenant sous contrôle chimiothérapique. C'est encore un système qui existe aujourd'hui.
L'extériorisation des patients. Alors, l'historien, comme vous, s'intéresse à la biographie des aliénés. A un certain intérêt pour la biographie des aliénistes, parce que vous les trouvez, soyez honnêtes, un peu bizarres, parfois, ou du moins paradoxaux. Mais la parole des malades. Alors, vous citez en note une exposition à la Maison Rouge en 2010, où était présentée une découverte assez hilarante de Marco de Corpeliada, dont j'imagine que c'est un malade qui prend la parole.
Classification, 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 classification.
Marco de Corpeliada est né en 1947, il est mort en 2006 et il a produit un certain nombre d'objets. Il faut savoir qu'il a été hospitalisé dans pas mal d'établissements psychiatriques où il a reçu des diagnostics divers et variés. 20.0, schizophrénie type paranoïde continue. 60.0, personnalité paranoïaque. 40.1, phobie sociale. 93.3, problème relationnel dans la fratrie. Ces diagnostics persécutaient Marco de Corpeliada, particulièrement sous leur forme chiffrée. Donc, il va se révolter et répliquer quelque chose à ces diagnostics. Et comment ? Eh bien, par le chiffre 20.0, il se trouve que c'est le chiffre de crevettes entières roses cuites chez surgelé Picard. Alors, à partir de là, il a poussé sa résistance jusqu'à fabriquer des objets. Des objets qui sont, vous le voyez derrière, des mètres. Pourquoi des mètres ? Parce qu'il s'est aperçu qu'il y a 1000 cases dans le DSM, 1000 millimètres sur un mètre, et la possibilité d'inscrire les correspondances entre le DSM et Picard surgelé sur des mètres. Vous avez par exemple ici 0.10, démence vasculaire non compliquée, correspond à 0.10, purée de haricots verts. Transvesticisme fétichiste, 65.1, correspond à 65.1, poireaux émincés à la crème.
41.1, dépersonnalisation, 45.0.
En fait, c'est un canular.
C'est un canular.
Bien sûr, c'est un canular qui a été monté par quelques psychanalystes qui étaient très sceptiques par rapport au processus de classification, au manuel diagnostique qu'on appelle le DSM en 2010. Et c'est tout à fait symptomatique de la manière dont, finalement, depuis quelques années, monte en puissance un certain scepticisme par rapport à la notion de schizophrénie et son abandon dans certains pays, notamment asiatiques, est déjà accompli.
Enfin, on pouvait croire que Marco existait vraiment, parce que vous montrez dans votre livre « Schizophrène au XXe siècle » chez Alma et Hervé Guillemin qu'il arrive aux schizophrènes d'avoir de l'humour. L'émission a été réalisée par Liscombe avec à la technique Ludovic Asselot et la préparation, c'était Franck Olivard. Et chez vous, Mathieu Vidard?
Oui, Jean, dans La Tête au Carré, on parle du dépistage en question autour du cancer du sein.
Oui, vous savez, un historien de la médecine comme notre invité serait capable de vous expliquer qu'autrefois on a cru qu'il y avait des maisons cancérigènes. Bon, enfin, c'est un débat sérieux chez vous, La Tête au Carré, dans un instant.